le modèle d'affaires d'une startup, il y a 3 résultats. Il y en a 4, mais je ne vais pas parler de la quatrième parce qu'elle est négative. C'est soit d'aller public, qui est une très bonne chose. Je pense que ça amène un peu, c'est un peu l'apogée d'une startup. Le deuxième, bon, c'est de se faire acquérir par un plus gros joueur. Et le troisième, c'est d'éventuellement devenir profitable.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 71e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement près de 2 millions de dollars de publicité Facebook par mois, G7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. En 2014, le célèbre investisseur américain Peter Thiel a écrit un livre fascinant que je recommande se nommant Zero To One. Plusieurs concepts très intéressants se retrouvent à l'intérieur du livre, mais un qui m'a marqué davantage est le fait que les grandes entreprises vont tout faire pour prendre un marché le plus rapidement possible. Pour le 71e épisode de Hypercroissance, on reçoit un entrepreneur qui a exactement cette vision. Antoine Bisson, cofondateur chez Poca, nous explique aujourd'hui comment son organisation a tout fait depuis 6 ans maintenant pour conquérir le marché manufacturier en proposant leur plateforme technologique. En ayant levé plus de 20 millions de dollars depuis ses débuts, Poca a été capable de s'établir comme le joueur dominant dans son marché et n'est pas du tout prêt à s'arrêter en cours de route. Sans plus attendre, ma discussion avec Antoine Bisson. Antoine Bisson, vous êtes le cofondateur et CTO chez Poca, une organisation technologique en forte croissance dans le secteur manufacturier. Vous avez lancé l'organisation en 2015 avec votre partenaire d'affaires Alex Leclerc et avez depuis amené l'organisation à plus d'une centaine d'employés en un peu plus de 6 ans. Antoine Bisson, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Merci de me recevoir, c'est très gentil. Très content de te parler aujourd'hui, Antoine. Très beau nom d'ailleurs.
C'est ça, c'est comme ça que je fais mes choix d'invités maintenant. Excellent. Puis Antoine, j'aime toujours demander à nos invités comment leur organisation s'est bâtie dans les débuts. Ça nous aide à bien comprendre la genèse de la compagnie, mais au-delà de ça, pourrais-tu nous dire, en plus de la fondation de l'entreprise, c'est quoi les services de Poca? Quel est le marché que vous desservez?
Poca est une plateforme pour le secteur manufacturier et seulement pour le secteur manufacturier. Donc, on est une plateforme qui est hébergée dans le cloud, qui est très dirigée vers les tablettes, et qui a été créé en fait pour accroître le transfert de connaissances, les résolutions de problèmes, la communication à travers les employés du secteur manufacturier. Donc, tout ce qui sont les opérateurs, les chefs d'équipe, les managers, etc. Donc, nous, notre solution de base a été faite pour ces employés-là et rien d'autre. Donc, on veut vraiment rentrer dans le marché manufacturier pour régler ces problèmes-là. Et l'idée, en fait, est venue de mon partenaire d'affaires qui est Alexandre Leclerc. Alexandre, qui vient de la famille des biscuits Leclerc. Donc, Alex, si on peut dire, est un ami d'enfance. Depuis l'âge de 6 ans, on se connaît. Donc, on dit souvent qu'on a 2 mariages. On a le mariage avec nos femmes et on a le mariage Alexandre et moi. Donc, Alex m'est arrivé avec l'idée environ en 2012. L'idée de Poca, lui, travaillait chez biscuits Leclerc dans le temps et voyait 2 problématiques. Le premier problème qu'il voyait, c'était le transfert des connaissances. Biscuits Leclerc, bon, a su grandir avec les années, ont eu des usines aux États-Unis, au Canada, etc. Et remarquait qu'à chaque fois qu'un employé venait du Canada, donc où que les usines sont les plus vieilles, avec le plus de connaissances, entre guillemets, quand les employés venaient aux États-Unis, il remarquait un certain gain de productivité, un transfert de connaissances qui faisait entre le Canada ou du moins les employés les plus anciens vers les nouveaux. Et il se disait tout le temps, voyons comment ça, je suis pas capable de garder après ça ce savoir-là, ces petites sessions d'informations-là de travail. Pourquoi je suis pas capable de garder ça? Et il faisait de parallèle qu'à chaque fois qu'il y avait un problème lui-même, il allait sur YouTube, il regardait une vidéo, etc. Puis il se disait, comment ça je suis pas capable de concrétiser ce savoir-là rapidement de mes anciens employés avec beaucoup d'expérience et le propager en interne à travers mes nouvelles usines. Donc ça, c'était le premier problème. Et le deuxième problème venait surtout de la communication. C'était en 2012, tout était un peu, en délai. Donc, ils recevaient des rapports 24 heures plus tard sur la journée d'avant Et c'était tout le temps, il appelait ça un peu jouer dans le cimetière. Donc, c'était des problèmes qui étaient arrivés et il n'était pas capable de, par la suite, les régler à ce moment-là. Donc, en 2012, il n'y avait aucune solution comme ça. Il n'y avait aucune plateforme qui existait. Donc, vraiment, focusé sur les opérateurs, sur les résolutions de problèmes, etc. Donc, il m'est arrivé avec l'idée. Et écoute, en 2012, comme je disais souvent, c'était l'apogée, si on veut, du financement dans les startups. Donc, on voyait des idées là, carrément un peu désuètes qui se faisaient donner des millions et des millions. Puis nous, on s'est dit, écoute, on a vraiment une idée qui est viable, qui est très bonne et qui n'a aucune compétition. Il n'y a pas personne qui a pris cette opportunité-là. Donc, on s'est dit, on va le faire. Donc, écoute, moi, en 2013, j'ai gradué. Et j'ai développé la première version de l'application de 2013 jusqu'à bon, fin 2014. Et bon, j'aime ça dire que the rest is history. Donc, on a pris du capital de risque et on a levé l'entreprise à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, ça a été un peu les débuts de Poca en soi.
Puis, on va en parler un petit peu plus tard du capital de risque, mais j'aimerais revenir à la fondation. Est-ce que à la base, quand vous avez eu l'idée puis vous êtes mis au travail pour bâtir la plateforme, vous avez autofinancé de A à Z et le capital de risque est arrivé plus tard ou dès le départ, vous êtes allé chercher du capital externe pour accélérer la croissance?
En fait, on a été très chanceux d'avoir un partenaire qui est la famille Leclerc. Là. Ça, on l'a tout le temps dit. T'as tout le temps, dans une startup, selon moi, il y a plusieurs facteurs. Il y a la chance, mais il y a aussi le timing. Et bon, nous, la chance qu'on avait, c'était d'avoir un partenaire qui était là, qui était, bon, les usines de Biscuit Leclerc, c'était le plus gros laboratoire et le meilleur laboratoire qu'on n'aurait pas pu avoir. Donc, on a développé la première application et bon, chacun de nous avons des parents qui sont compréhensifs, si on veut dire. Donc, moi, j'ai étudié en Ontario, je suis revenu à la maison, j'ai fait un peu la vraie vie de startup, là. J'ai pas eu de salaire pendant un an et demi. Mes parents me nourrissaient d'eau et d'eau fraîche, et de farine et de, non, mais blague à part, ils ont été très supporteurs là-dedans. Et puis, on a décidé de ne pas prendre capital externe dès le départ. On a vraiment décidé de dire, on a deux employés, entre guillemets, qui ne payent pas de salaire et qui développent l'application et il advienne ce qu'il pourra. Je pense qu'il faut tout avoir une mentalité quand on part en affaires un peu, c'est quoi le pire qui peut arriver? Tu sais, c'est quoi? C'est, bon, tu vas retourner à ton ancien job, tu vas avoir perdu un an et demi de ta vie, mais tu vas avoir excessivement appris. Donc, on a décidé d'y aller, si on veut, en anglais, le all-in. Donc, on n'a pas pris de capital de risque. J'ai développé pendant un an et demi, pas de salaire chez nous, on a eu du fun, on a appris, puis après ça, on a pris du capital de risque en septembre 2014. On avait commencé le processus pour que notre première ronde de financement arrive à la fin 2014.
Intéressant. Puis bon, tu l'as dit un petit peu plus tôt à la blague, mais c'est quand même vrai, the rest is history. Du moment que vous êtes mis vraiment au travail et que vous avez un client à la fois, accéléré la croissance de l'organisation, il y a une chose qui m'a surpris en faisant mes recherches, c'est votre vitesse. Donc, au moment où on se parle, et corrige-moi si je me trompe, je crois que vous avez levé près de 20 millions de dollars en financement. Puis très souvent, quand dans les 5-6 premières années d'une organisation, on lève autant de capital, c'est pour aller chercher le marché en premier. Est-ce que tu peux confirmer un petit peu que c'était ça l'idée au départ de se dire, bon, dès qu'on a une preuve de concept qui est fonctionnelle, on s'en va chercher du capital pour être certain d'être le premier joueur à aller chercher ce marché-là qui, avant nous, n'avait aucune solution adaptée?
Ouais, c'est important de dire ça parce que en fait, quand on a décidé de partir pour Poca, le secteur manufacturier, selon moi, dans ce temps-là, était un secteur qui était en retard. Ok, les opérateurs, l'humain en soi, n'avait jamais été priorisé dans les changements technologiques. On parle beaucoup de l'industrie 4.0, les changements, les IoT, le data, etc. Mais selon moi, ça a tout le temps été un secteur qui, si on recule pratiquement bientôt 9 ans, qui a été tout le temps été un peu en arrière, délaissé, etc. Et quand on voyait les solutions qui étaient offertes dans le secteur, c'était tout le temps des solutions un peu, si on peut dire, old school. Là. Tu sais, tout le temps, on arrive, on installe ça chez le client, l'interface est grise, et pas facile d'utilisation, etc. Donc, pour nous, c'était important d'arriver avec une nouvelle mentalité dans le temps. Donc, dès le départ, Alexandre et moi, on s'est dit, OK, on va vraiment effacer les livres et repartir à zéro, puis pour ce faire, je pense que c'était important que de un, on aille dans le cloud, là, donc dans le fameux nuage en français, qu'on priorise les tablettes et que ça allait nous permettre de croître rapidement. Je fais tout le temps la blague que moi, dans mon temps, je suis pas encore un boomer, là, mais dans mon temps, tu sais, écoute, on retourne devant en arrière, il y avait même deux compagnies qui faisaient le cloud, et plusieurs personnes sur le podcast ne sauront peut-être même pas c'est quoi. Il y avait Rackspace et Amazon. Et dans le temps, j'avais décidé d'aller avec Amazon parce que je me disais, bon, écoute, on va pas être beaucoup, il va falloir qu'on soit capable de pas mettre beaucoup de capital dans cet aspect-là de la business. Donc, ça a été un pari qui a été un très bon choix, si on veut, parce qu'aujourd'hui, Rackspace, plus personne connaît ça. Donc, dès le départ, on a été capable de prendre des décisions qui ont fait en sorte qu'on soit capable de lever du capital de risque, oui, mais de rester très, très, j'aime pas le mot en français, là, mais maigre, mais lean. Donc, on a été 10 employés, mais on avait des clients à travers le monde dès le départ. Donc, selon moi, le capital de risque, oui, c'est une bonne chose, OK? Mais je pense que de gérer la charge du capital de risque en est une autre. Et pour nous, ça a été oui, t'as entièrement raison, Antoine, c'était pour prendre possession de marché, il n'y avait pas personne qui était là dans le passé, qui n'avait pas une solution comme la nôtre. Mais nous, ça a été le but du capital de risque, c'était pour ça. C'était d'arriver puis de prendre le marché au complet. Et ça s'est avéré une très bonne chose, là, si on veut.
Puis c'est des situations qui plaisent aux investisseurs. Quand ils sont capables de voir qu'une organisation est en train de combler un enjeu, qu'il y a une solution que personne n'avait auparavant, c'est un petit peu plus facile des fois d'aller investir plus rapidement.
Ouais, puis écoute, c'est une très bonne chose. Là, je vais te parler en tant qu'entrepreneur, en guillemets. C'est une très bonne chose, mais une chose qui est difficile aussi. Tu sais, c'est drôle parce que beaucoup de personnes, je sais que c'est pas ton cas, mais beaucoup de personnes voient les millions et pensent qu'automatiquement, les fondateurs sont millionnaires du jour au lendemain, que l'entreprise a plus de l'argent, etc. Mais bien une pression avec ça. Je pense que tout le monde est conscient de ça. La pression que nous avions, je pense, c'est qu'aujourd'hui, si avec du recul, on était peut-être même un peu trop à l'avance. Les premiers défis de POCA étaient de justement changer la perception du secteur manufacturier. Je pense que on est peut-être arrivé un an ou deux trop tôt à la vente, mais à la conception, pour nous, ça a été un gros avantage. Aujourd'hui, je pense que on a le meilleur produit. En fait, je le pense pas, je sais, on a le meilleur produit sur le marché parce qu'on a eu des années d'avance sur tout le monde. On a des clients à travers le monde. On est une grosse équipe, mais petite équipe en maintenant pour l'ampleur de nos clients. Tu sais, on est capable de justement desservir des clients à travers le monde grâce aux choix technologiques qu'on a fait dans le passé. Ceci dit, dès le départ, oui, les investisseurs étaient très contents d'avoir une solution qui n'avait pas de compétiteurs, mais ça a été un début. On avait beaucoup d'éducation, si on veut, à faire. Donc, ça a été un couteau à deux tranchants, si on veut, de ne pas avoir de compétition parce que, justement, il n'y avait pas d'éducation qui avait été faite. Aujourd'hui, c'est une autre discussion. On était content d'avoir été là avant tout le monde, je pense.
Comment s'installe une dynamique avec des investisseurs? Parce que, bien entendu, toi et Alexandre, vous êtes toujours les dirigeants de l'organisation. Donc, c'est vous qui faites en sorte que l'organisation continue d'avancer à la vitesse qu'elle avance au jour le jour. Mais bien entendu, il y a des gens qui ont mis de l'argent, des montants importants, on le dit plus tôt, 20 millions maintenant dans les 6 premières années d'existence pour accélérer la croissance de l'organisation. Ces gens-là s'attendent à des retours. Comment s'installe la dynamique? Est-ce que du jour au lendemain, tu t'es rendu compte que, oh, finalement, ben là, je dois être un petit peu plus serré dans les suivis que je fais à mes investisseurs chaque semaine, chaque deux semaines. J'ai des attentes et des objectifs qui doivent être atteints. Sinon, malheureusement, ben ça va peut-être être un petit peu plus compliqué d'aller faire la prochaine ronde par la suite. Comment s'installe cette dynamique-là?
Moi, je pense que pour Alexandre et moi, et je pense que pour toute organisation, ça dépend du passé des entrepreneurs et tout. Mais pour Alexandre et moi, ça a été une très bonne chose. On va pas se le cacher. Aujourd'hui, j'ai 31 ans. On a commencé l'entreprise, on avait 25 ans. On n'avait pas beaucoup d'expérience de vie. On va pas se faire de cachette non plus. Donc, un bon investisseur, et ça a été notre cas, on a eu Innovia dès le départ et Encore Capital à San Francisco qui a investi dans nous dès le départ. Bon, Innovia est la firme de capital de risque à Montréal. T'as Innovia qui est un des meilleurs fonds d'investissement pour les compagnies très, très jeunes en Californie. Ça l'a amené une structure, si on veut, une structure dès le départ dans l'entreprise. OK, voici ce que vous devez faire. Voici c'est quoi les objectifs. Voici comment vous devez y arriver. Voici ce que vous ne devez pas faire, ce que vous devez faire. Donc, je pense que d'avoir des investisseurs qui sont du calibre qu'on a eu la chance d'avoir dès le départ a été très bénéfique pour la croissance de l'entreprise, la structure de l'entreprise. Je pense que on en a fait des erreurs. Là. Un entrepreneur qui dit qu'il n'a pas fait d'erreur, je te dis, il te match tout de suite. On en a fait. Est-ce qu'on en aurait fait plus? Je pense que oui. ça a été très bénéfique pour nous. C'est une dynamique qui est beaucoup de confiance, hein. C'est justement, eux te donnent des millions en retour d'un pitch de vente que tu leur as fait, de des prédictions, etc. Donc, c'est une relation qui est très de confiance et qu'il faut maintenir cette confiance-là. Toutes les histoires d'horreur qu'on entend, selon moi, c'est quand il n'y a plus de confiance. Et nous, on a été capables, justement, ils sont très contents, on a été capables de grandir sur cette confiance-là.
Donc, j'imagine à un certain point, ça devient quasiment des mentors, des conseillers, là.
Oui, entièrement, tu sais, comment gérer des clients plus gros que d'autres avec certaines demandes, bon, les structures dans tous les départements, tu sais, je veux dire, veux pas, il y a 4 ans, j'étais encore en train, il y a 5 ans, j'étais encore en train d'écrire du code. Aujourd'hui, je n'écris plus de code, on structure les équipes, on sait c'est quoi les meilleures pratiques, qu'est-ce qu'il faut faire, comme je dis, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Donc, ça amène, selon moi, beaucoup de bénéfices. Il y en a qui diront le contraire, mais bon, dans notre cas, ça a été une très, très, très bonne chose.
Très intéressant. Puis, là, je suis curieux, présentement, bon, il y a les investisseurs qui se sont installés, qui vous ont donné davantage de capital. Quand on va te donner du capital, c'est pour aller chercher de la croissance.
Ouais.
Qu'est-ce que veut dire croissance pour vous dans l'exécution? Est-ce que c'est davantage de gens qui vont faire du développement d'affaires? Est-ce que c'est davantage des budgets publicitaires que vous allez faire pour faire de l'acquisition de clientèle? Est-ce que d'un autre côté, c'est d'aller bâtir une équipe beaucoup plus grande à l'interne pour faire en sorte que le produit s'améliore continuellement? J'imagine que c'est peut-être un mix de tout ça, mais est-ce que tu es capable de nous dire là spécifiquement où va le focus après avoir fait ces dernières rondes de financement?
En fait, je pense que c'est bien résumé. C'est un peu tout. Chaque ronde de financement amène son objectif. La première ronde de financement, c'est bon, il faut qu'on, à la blague, là, il faut qu'on élimine le fondateur technique. Donc, la première ronde de financement, c'était m'éliminer, donc engager une équipe d'ingénieurs, engager une équipe de développement qui est capable de dire que si le fondateur, demain matin, il arrive quelque chose, l'équipe côté technique va continuer de croître. La deuxième ronde de financement, c'était bon, là, il faut éliminer le fondateur si on veut de vente. Donc, la deuxième ronde, c'est de bâtir la série A, là, c'est de bâtir l'équipe de vente, de dire que le produit marche. Maintenant, il faut qu'on aille s'assurer qu'il y a une demande pour le produit, chose qu'on a fait. Là, maintenant, on rentre dans la troisième ronde, qui est la ronde de financement B. La ronde de financement B, c'est là qu'on s'en va. Nous, c'est là qu'on est en train de faire tout ça. C'est exactement comme tu dis, c'est de croître l'équipe de vente à l'interne, mettre plus de capital dans tout ce qui est marketing, tout ce qui est publicitaire, et là d'arriver de dire qu'on est à maturité et qu'on a trouvé une recette, si on veut, secrète, qui fait en sorte que les ventes peuvent se répéter et atteindre des multiples exponentiels. Hein. Il faut pas se rappeler que oui, comme tu l'as mentionné tantôt, il y a beaucoup d'argent qui est investi, mais bon, on va pas se faire de cachette, il y a tout le temps un rendement qui est voulu. Donc, et ces rendements-là sont souvent exponentiels. Donc, c'est comment qu'on fait pour trouver la recette. Et là, c'est des grosses injections de capital. Les séries B, c'est beaucoup, beaucoup d'argent qui rentre pour justement croître l'équipe exponentiellement pour arriver à des résultats exponentiels. Donc, les prochaines rondes là, vont beaucoup être axées sur la croissance de vente, publicité et les marchés émergents. Donc, on parle de l'Europe, l'Asie, etc. Donc, c'est nos prochains objectifs, là.
Donc, c'est de la prise de marché pure et dure là, que
exactement,
vous allez faire
pure et dure.
Avec votre prochaine ronde de financement. Intéressant. Puis, je pose la question, est-ce que c'est une vision future de faire d'amener l'entreprise publique?
Je pense que oui. En fait, je dis ça avec un soupir parce que je vois le travail qui va, mais c'est excitant. Je pense que, tu sais, on va pas se faire la cachette, le modèle d'affaires d'une startup, il y a trois résultantes. Il y en a 4, mais je vais pas parler de la quatrième parce qu'elle est négative. C'est le choix d'aller public, qui est une très bonne chose. Je pense que ça amène un peu, c'est un peu l'apogée d'une startup. Le deuxième, bon, c'est de se faire acquérir par un plus gros joueur. Et le troisième, c'est éventuellement devenir profitable. Tu sais, on a eu des entreprises à succès à Montréal, comme Luxury Retreats, ils ont accepté du capital, mais Chris Arsenault le dit souvent, Luxury Retreats ne voulait pas de capital de risque, il était bien dans ses chaussettes, si on veut, toutes les choses allaient bien, capital de risque a amené une autre tangente. Mais ça, c'est les trois objectifs.
Et il s'est fait acquérir par Brian Chesky par la suite.
Ouais, avec c'est Airbnb. Ça, par la suite. Je pense que il a pris l'option 2, mais tu sais, ouais. Blague à part, c'est ces trois options-là. Je pense que les trois ont tous leur pour et leur contre. Puis, tu sais, on le voit aujourd'hui, tu sais, Dialogue s'en va public la semaine prochaine. Tu sais, c'est le fun, là, le Lightspeed qui l'a été il y a un an et demi, 2 ans. je pense que le Canada est en train de prendre sa place dans le secteur des technologies. Puis, tu sais, on l'a toujours été un joueur, mais là, de plus en plus. Fait que si c'est notre possibilité, je dirais pas non.
Intéressant. Je reviendrai un petit peu au marché manufacturier. Je te mets un petit peu de contexte, Antoine. Donc, dans la dernière année, j'ai interviewé un paquet d'entrepreneurs. Puis, ce que je trouve assez fascinant dans toutes ces différentes interviews-là que j'ai été capable d'avoir, c'est que la COVID-19 a soit été un accélérateur pour ces entrepreneurs-là avec leur organisation, ou d'un autre côté, malheureusement, ça a mis l'entreprise un petit peu sur hold. Comment que le marché manufacturier a répondu à cette crise, à cette pandémie-là, et également comment POCA s'y est adapté?
Je pense que quand la COVID est arrivée, tout le monde a eu un instant de, excuse-moi, en bon québécois, tout le monde a eu un 2 minutes. Je pense que tout le monde a arrêté, là, puis là, a dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Nous, on l'a eu. Je connais des entreprises excessivement lucratives qui ont eu un 2 minutes aussi. Tous nos investisseurs ont fait un, OK, on fait une pause de 2 secondes. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pour nous, ça a duré peut-être 1 mois et demi, 2 mois, côté interne. Par contre, pour nos clients, ça a été l'inverse. C'était comment pouvez-vous nous aider à rapidement transformer notre usine? Comment qu'on peut aller encore plus vite dans la transformation digitale? Donc, nous, pour nous, du jour au lendemain, ça a été, pour l'interne, un remaniement, mais pour nos clients, ça a été très, très, très bénéfique. Donc, du jour au lendemain, on a eu des clients comme Barry Calbo en Chine qui nous ont dit, OK, il faut que vous nous aidiez. On veut croître notre usage. On veut amener tous nos employés à voir les instructions de travail. On a des opérateurs qui ne peuvent pas rentrer dans l'usine. Il faut que vous nous aidiez. Fait que c'est là que je te dis que d'avoir fait des choix technologiques dans le passé, c'était une bonne chose. Comme tu vois, on a été rapidement capable de s'asseoir avec Amazon, de pouvoir déployer des serveurs en Chine, de pouvoir avoir après ça des services qui étaient aussi bons pour nos utilisateurs dans toutes les régions. On a des parcs aussi en Afrique. Donc, on a été capable de faire des choix dans le passé qui ont été aujourd'hui très bénéfiques avec la COVID. Donc, du jour au lendemain, on a eu des clients qui nous ont dit, OK, pourquoi il faut que vous nous aidiez à accélérer de façon exponentielle parce que le problème est là pour rester et on n'y voit pas de solution pour l'instant. Donc, pour nous, on a eu une augmentation d'utilisation de l'application de 600% dans certains cas. Donc, comment tout le transfert de connaissances, etc., les instructions de travail, le transfert de connaissances, on a vu une croissance de 600% en l'espace de 2 mois. Puis ça, comme je le dis, t'sais, on a vu, pour nous, ça n'a eu aucun impact. On n'a eu aucun stress parce que tout a été capable, toute notre infrastructure, toutes nos plateformes ont automatiquement répondu à cette demande accrue-là. Donc, pour nous, ça a été une très, très, très bonne chose. Puis, en fait, on a eu une demande de nouveaux clients qui a été plus haute qu'on aurait pu penser encore. Donc, pour nous, la COVID a été très, très, très bénéfique, sauf les débuts, là. Je pense que c'est plate, là, mais ça a été beaucoup de cas pour personne, mais pour l'instant, pour nous, on est en très bonne situation puis on est très content par rapport à ça.
Intéressant. Ça fait du sens, hein? Beaucoup de gens ont eu se sont réveillés puis se sont dit, bon, là, c'est maintenant ou jamais que je dois changer un petit peu ma manière de faire les choses. Et comme tu dis, si vous avez eu une augmentation de 600%, je regardais un petit peu plus tôt votre modèle d'affaires, fait en sorte que ces mêmes entreprises-là qui étaient déjà vos clients, automatiquement, la facture moyenne que ces clients-là vont avoir avec votre plateforme va augmenter parce que ça y va par nombre d'utilisateurs, de ce que je comprends là.
Oui, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que oui, la facture moyenne va monter. Par contre, nous, on est des rabais à l'échelle, des rabais de volume, si on veut. Ceci dit, je pense que c'était plus j'appelle pas ça un mal nécessaire parce qu'on n'est pas un mal, au contraire, on est une nécessité, mais je pense que ça l'a juste, comme dans les restaurants, tu sais, je pense que ça l'a juste mis le monde plus à l'évidence qu'il fallait faire cette transformation-là. Donc, les coûts pour, ça a été à peine discuté, pour être bien honnête, là. On n'a pas eu de contraintes par rapport à ça. Puis pour nous, bon, c'est ça qui est la beauté d'une entreprise comme la nôtre qui est dans le cloud, qui est dans toutes ces plateformes-là. C'est pour nous, plus qu'il y a du monde qui l'utilise, puis ça, c'est pas un secret, plus les marges deviennent intéressantes aussi, là. Donc, c'était ça le but. Et pour nos clients, comme je te dis, ça a juste accéléré l'inévitable de devoir transformer leur entreprise comme elles le sont. Puis on l'a vu, hein, tu sais, on parle de technologie, tout ça, mais tu sais, les restaurants, selon moi, ils ont dû passer du jour au lendemain à avoir une plateforme que tu pouvais commander ta nourriture sur ton téléphone. Sinon, le restaurant marchait pas, tu sais. Fait que je pense que ça a été, justement, une hyper l'hyper-accélération de la transformation.
Ah, définitivement. Si je rentre un petit peu dans le volet ressources humaines, parce que bien entendu, bon, on a parlé de financement, on a parlé de croissance, de prise de marché, mais à la fin de la journée, vous devez avoir davantage de capacité à l'interne pour absorber une croissance du genre. Peux-tu nous parler un petit peu comment que ça se passe tout ça, engager autant de gens aussi rapidement? Est-ce que vous avez revu votre manière de faire du management? Est-ce que vous avez davantage une approche à l'horizontale ou est-ce qu'il n'y a pas une grande hiérarchie dans l'équipe et qu'il y a davantage d'autonomie laissée aux différents joueurs dans l'équipe? Comment ça se déroule là, ces périodes d'embauche-là rapides avec tout le nouveau monde que vous amenez dans l'équipe?
Je pense que, en fait, nous, on a mis beaucoup d'accent sur ça. On a mis beaucoup d'accent sur l'intégration des nouveaux employés. Veux pas, Alexandre et moi, la priorité a tout le temps été le bonheur de nos employés. C'est un peu, si on veut, quétaine à dire, mais c'est vrai. Si l'entreprise réussit et qu'elle est au stade où qu'elle est aujourd'hui, bon, c'est à cause que nos employés nous sont fidèles, qui sont heureux de travailler pour nous et qui vont dévouer corps et âme. Bon, par la suite, il y a nos clients, il y a le timing, etc., etc., le produit en soi. Mais les employés sont pour nous une priorité. Donc, le COVID a amené un changement, si on veut, de facilité, en guillemets, d'intégration ou non. OK, donc, il a fallu qu'on revoie comment qu'on allait intégrer ces employés-là. Je pense qu'on fait un excellent travail. Le feedback qu'on a de nos nouveaux employés il est exceptionnel. Le monde sont super contents. Il a fallu qu'on réinvente comment qu'on allait garder cet aspect de famille-là. Donc, pour nous, on a mis beaucoup d'accent dès le COVID en sachant que ça allait rester sur comment qu'on allait réinventer ça. Donc, on a fait des ateliers de bière, des ateliers de mixologie, on fait des escape rooms virtuels, on fait des quiz, on fait, tu sais, tout ce que tu peux imaginer, on le fait dans le virtuel. Par contre, le recrutement et n'importe quelle entreprise technologique va te dire, c'est difficile. Okay, on va pas se faire de cachette non plus. Il y a tellement de demandes, il y a tellement de compétition, puis tout le monde a un bénéfice plus que l'autre, etc., etc. Nous, on travaille beaucoup sur le référencement. Donc, on mise beaucoup sur nos employés. Il y a une prime associée à ça, naturellement. Mais on mise beaucoup sur, parle-en à ton ami, parle-en à du monde que tu connais pour leur dire à quel point c'est le fun de travailler chez nous. On a besoin de du monde qui viennent puis qui sont contents de venir travailler. Puis si le monde se connaisse puis qui sont déjà travaillés ensemble puis qui savent qu'ils sont bons, c'est bénéfique pour tout le monde. Donc, nous, on mise beaucoup, beaucoup sur le référencement. Et par la suite, bon, il y a le fameux LinkedIn recrutement, on fait des ateliers de recrutement, etc., etc. Mais je pense que c'est de miser aussi sur la réputation. Hein. Tu le sais, il y a des entreprises qui n'ont pas une bonne réputation, pas personne ne va vouloir aller travailler là, puis c'est un cercle vicieux. Donc, pour nous, ça a été très, très, très important dès le départ que, puis on fait pas ça d'une façon hypocrite, là, mais pour moi, je veux me lever le matin et être content d'aller travailler aussi. Là. Tu sais, je fais pas ça. Si je fais ça pour le fun, là, fondamentalement, à partir d'une entreprise, pour croire puis d'amener de quoi au reste du monde entier. Là. Fait, pour nous, ça a été très important que tout le monde se sente à leur place et qu'il soit important. Donc, c'est, tu me parlais un peu de la hiérarchie, tout ça. Tu sais. J'ai 31 ans, je l'ai dit tantôt, on a des exécutifs, des vice-présidents qui ont beaucoup, beaucoup plus d'expérience que nous. Donc, pour nous, c'est important que le monde aille, on leur donne leur confiance absolue. Donc, il n'y a pas d'horizontalité, là, si on veut, parce que, tu sais, bon, il y a beaucoup de différences de niveau de seniorité ou pas, mais il y a un grand sentiment de confiance chez POCA et c'est ça qu'on prime, là. Il n'y a pas de micromanagement, rien de là, mais c'est important que tout le monde se sente dans un environnement de confiance où que tu es capable de prendre ownership de ce que tu fais puis que tu sois fier de ce que tu fais.
T'as mentionné quelque chose d'assez intéressant. Bien entendu, ton âge, donc tu es assez jeune pour avoir une organisation comme ça. Félicitations. Et tu as mentionné que vous êtes entouré de gens qui ont davantage de seniorité. Est-ce que, disons, ça, c'était un conseil ou quasiment un ordre des investisseurs d'aller chercher des gens qui vont peut-être avoir des postes de directeur du développement d'affaires, directeur de la technologie, qui l'ont déjà fait? Qui l'ont déjà fait, c'est-à-dire aider une start-up technologique à passer le cap de croissance à hyper-croissance?
Je pense que ça n'a jamais été un ordre, puis ça n'a jamais été dicté, mais je pense qu'on aurait été un peu naïf de pas le reconnaître. Un investisseur qui va penser que les fondateurs de 25 ans peuvent tout faire, honnêtement, je veux pas l'avoir comme investisseur parce que c'est pas vrai. Honnêtement, là, je pense que ça a été tel départ, Alex et moi, sommes très, si on veut, on reconnaît nos forces et faiblesses dans nous. T'sais, aujourd'hui, j'ai 6 ans de plus d'expérience. Je suis pas la même personne que j'étais. Je commencerai une nouvelle business. Je referai pas les mêmes erreurs, etc. Donc, ça a été tout le temps discuté, Alexandre et moi, que il faut tout le temps engager plus haut que soi et meilleur que soi. T'sais. Fait que moi, les développeurs que j'ai engagés, ils étaient tous meilleurs que moi. Puis j'ai jamais mal pris le fait qu'ils supprimaient de mon code dans l'application. J'ai jamais eu d'ego non plus. Alexandre n'a pas eu d'ego par rapport à ça, côté vente, marketing, etc. Donc, ça n'a jamais été un ordre. Mais ça a tout le temps été quelque chose que lui et moi avons prôné de s'entourer de personnes plus compétentes que nous. Et je pense que ça a été naturellement bien reçu de nos investisseurs. Ça a jamais été une discussion qu'on a dû avoir. Mais j'ose espérer que des investisseurs qui investissent dans des gars de 25 ans ont pas à leur dire que c'est évident qu'il faut s'entourer de personnes plus seniors, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est un succès aussi. Ça a été un gage de succès qu'on a été capable de reconnaître dès le départ qu'il fallait qu'on engage des personnes plus d'expérience pour atteindre, comme tu dis, l'hyper-croissance, parce que sinon, je pense que c'est tu stagnes. Hein, le monde évolue avec le temps, tu atteins des nouveaux plafonds de tes connaissances, tu vas en défoncer ou des fois tu vas retomber sur terre. Fait que d'engager du monde qui ont déjà tout vécu ça, selon moi, c'est le plus gros atout que tu peux pas faire pour ton entreprise dès le départ.
Mm. Est-ce que vous avez un mix présentement de on engage certains seniors, on engage certains juniors ou est-ce qu'on engage uniquement des seniors? Comment ça se passe? Comment vous voyez ça un petit peu de votre côté quant aux nouvelles personnes que vous voulez amener dans l'organisation?
Ça dépend des rôles. C'est pour être très franc avec toi. Ça dépend des rôles, ça dépend de où que l'entreprise est rendue dans certains de ces départements-là. Tu vois, en ingénierie, on va prendre autant du junior au senior. Parce qu'on a du monde qui sont établis depuis longue date dans l'organisation en ingénierie. Donc, on est prêt à prendre des mix de tout et de rien. Si demain matin, on partait un nouveau département, j'essaie de penser à un nouveau département. On n'a pas de nouveau département à partir, là, mais si demain matin, on commençait avec quelqu'un de senior. Selon moi, au stade où nous sommes dans l'entreprise, mon CFO va me le dire tout le temps, malheureusement, on n'est plus au stade où on peut avoir le loisir d'apprendre et de tomber et de se le relever. OK? Donc ça, je pense que ça va dans chaque stade de la croissance d'une entreprise. Pour nous, pour l'instant, il faut que chaque chose qu'on fait soit pratiquement calculée et qu'on mette les bonnes personnes aux bonnes places. Donc, je te dirais que dans les nouveaux rôles, on va aller chercher beaucoup des personnes plus seniors. Par contre, pour supporter ces personnes-là, là, nous, on est prêt à tout prendre dans le sens que il n'y a pas de mauvais ou d'avoir des juniors ou pas, selon moi. Si on est capable de faire croître quelqu'un, c'est une très bonne chose. Puis un senior va amener son autre bagage aussi. Donc, pour nous, on vise beaucoup les deux. Et il y a une chose qui est intéressante, puis tu pourras en parler avec d'autres invités aussi, c'est les nouveaux rôles qui émergent. Hein. Il y a des rôles qu'il y a 4 ans à Montréal, c'était très peu connu. Là, mettons, je te parle de product designer. C'était pas quelque chose qui était connu il y a 4-5 ans nécessairement à Montréal. Aujourd'hui, c'est rare. T'en cherches parce que c'est un nouveau rôle. Fait qu'avec le temps, effectivement, les personnes se rentrent dans les nouveaux rôles et là, eux deviennent des atouts encore plus importants parce que c'est des nouveaux rôles qui émergent avec l'évolution du produit. T'sais. Aujourd'hui, il y a des rôles qui existent plus non plus. Là, quelqu'un qui va changer un serveur dans une salle. En 2021, il n'y a plus personne qui font ça. T'sais, aujourd'hui, avec le cloud, comme nous, on a décidé de faire dès le départ, t'sais, rapidement, on change l'expertise du monde. Puis ça, pour moi, c'est important.
Tu as mentionné Montréal. C'est quoi ta vision par rapport aux embauches qui peuvent être faites un petit peu partout à travers le monde? On rentre maintenant ça fait maintenant 1 an que la majeure partie des organisations vivent le télétravail. Beaucoup d'entreprises se sont rendues compte que oui, c'est bon, les employés peuvent travailler de chez eux. Mais ça fait également partie du jeu que je peux engager partout maintenant. Donc, il y a eu un changement de vision pour certaines personnes que j'ai interviewées, pour certaines organisations également avec qui j'ai eu la chance de discuter. Quelle est votre vision, vous, chez POCA, par rapport à ça? Est-ce que vous voulez continuer à engager des gens spécifiquement au Québec ou vous avez une vision de peut-être bâtir une organisation 100% distribuée à terme?
C'est une bonne question. Écoute, on y a pensé beaucoup, pour être honnête. Le talent est partout. Okay, ça, on ne va pas se faire de cachette. Le talent est partout, donc on a commencé justement à aller chercher du talent à l'extérieur. Donc, on a des nouveaux employés à Calgary, on a des nouveaux employés en Europe, à Toronto, etc., etc. Par contre, pour nous, Alexandre et moi, on a fait le choix d'y aller dans cette avenue-là, d'aller chercher du talent à l'extérieur, mais avec le fait qu'on va toujours vouloir voir ces employés-là quelques fois par année, pour garder ce sentiment d'appartenance-là, de famille-là. Ça, pour nous, c'est très important. Donc, nous, POCA, en tant qu'organisation, on a fait le choix d'aller à l'extérieur et d'y amener aussi le cachet budgétaire d'avoir des personnes à l'extérieur et éventuellement les ramener quelques fois par année pour des événements. Pour nous, ça, c'est très important. Donc, est-ce qu'on va décider d'aller 100% à l'extérieur? Je ne penserais pas parce que là, l'enveloppe deviendrait trop élevée parce qu'on veut garder cet aspect-là. C'est très, très, très important pour nous. Qui nous sommes, c'est dans notre ADN. Par contre, ça a ouvert, effectivement, comme tu dis, des nouvelles portes. Tu sais, fait qu'on n'a pas de barrière. Est-ce qu'on prime les employés locaux? Je dirais que oui et non. Si le talent est à l'extérieur ou non, on va le considérer puis on va aller de l'avant avec ça. Fait que pour nous, ça l'a changé, pas changé en même temps.
Intéressant. Avant que je te pose des petites questions personnelles, ça ressemble à quoi là, l'avenir de POCA pour les 6 prochains mois, la prochaine année, peut-être même les 3 prochaines années? C'est difficile des fois quand on est une startup technologique de se voir directement sur 3 ans, mais je pose la question.
Les prochains mois, c'est de continuer à engager, de continuer à croître. Ça, c'est le court terme, de continuer à finir ce qu'on a commencé dans les processus de financement, etc. C'est des choses qui sont excitantes pour l'entreprise. Donc, à court terme, c'est de continuer, comme je te dis, à croître, à engager, de bâtir notre place. Je te dirais que dans 1 an, 2 ans, on veut encore plus solidifier notre position dans le marché. Donc, on est un gros joueur. On est la meilleure plateforme dans le domaine que nous sommes. Et il faut pas s'asseoir sur nos lauriers. Au contraire, il y a de plus en plus de monde qui viennent dans notre domaine. Qui sont des compétiteurs, etc. Donc, pour nous, ça va être de redoubler d'efforts dans les 2-3 prochaines années pour garder cette place-là et la maintenir. Et tu sais, on dit tout le temps que tu as ton Facebook pour ton personnel, tu as ton YouTube, tu as ton LinkedIn pour ton professionnel. On veut que POCA soit encore plus connu et devienne la référence pour le manufacturier. Pour nous, c'est vraiment important qu'on soit le nom que, tu sais, on envoie aujourd'hui là des descriptions de tâches, des offres d'emploi qui mentionnent POCA. Tu sais, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est grand là. Tu sais, c'est quand même quelque chose qu'on a été capable d'avoir de reconnaissance, si on veut. Donc, c'est de continuer à mettre notre nom un peu partout, puis de devenir la référence. Ça, c'est notre objectif. Moyen long terme. Et la croissance, ça ressemble à ça, c'est de continuer, de ne jamais arrêter. Tu sais, une startup qui dit qu'il a atteint ce qu'elle avait à atteindre, encore là, la personne va te mentir. c'est de juste continuer comme ça, selon moi, puis de s'entourer de personnes compétentes, de partenaires d'importance qui reconnaissent qui nous sommes aussi. Tu sais, on le voit, on est partenaire avec Apple, avec Amazon. Tu sais, on est tellement reconnaissant de ces personnes-là, fait que c'est de continuer à croître nos relations aussi, puis de s'entourer de personnes de confiance. Ce n'est que le début. Il y en a du monde qui dit ça fait 5 ans qu'il est en affaires. Selon moi, on vient de finir un premier chapitre, là, puis là, on rentre dans le prochain.
Intéressant. Question personnelle. Oui. Bon, beaucoup de gens, et moi-même, je suis un grand amateur de lecture d'affaires. Est-ce que tu lis quelques livres d'affaires pour te garder éveillé de tout ce qui se passe dans le domaine?
Pas nécessairement de livres, quoi. Je suis beaucoup, bon, tout ce qui est blog. Je regarde aussi beaucoup d'articles qui se passent. J'essaie aussi d'amener sur tout ce qui est l'économie mondiale. Des fois, ça a un impact plus qu'on pense sur ce qu'on est. Les livres d'affaires, donc je transfère ça plus à des blogs et à des magazines, si on veut. Par contre, je suis un très gros fan de bandes dessinées, là, plus que graphic novel. Là, donc, des fois, j'essaie de me changer les idées. Là. Des fois, je vais être bien honnête avec toi. Des fois, lire des livres d'affaires, ça m'amène à un stress le soir en me disant « Ah non, je suis pas en train de faire ça. » Des fois, j'aime mieux laisser faire, pour être bien honnête. Mais ouais, non, écoute, je suis plus un blogueur que livre, malheureusement. Mais le monde a tellement à offrir en termes de connaissances. Ben oui. Puis toute personne, je pense qu'il y a un livre qui m'a marqué, là, c'est The Hard Truth About the Hard Thing par Horowitz. Selon moi, c'est un livre que n'importe quel fondateur ou entrepreneur devrait lire. Si je l'avais lu dès le départ, j'aurais beaucoup appris, selon moi, parce que chaque chose qui se passe dans le livre sont vraies. Donc, s'il y a un livre que tout fondateur ou entrepreneur devrait lire, c'est celui-ci. Mmh.
Routine, ça ressemble à quoi le lundi ou vendredi d'Antoine Bisson? Est-ce qu'on a une routine très cordée? Est-ce que finalement, ça change d'une journée à l'autre?
Écoute, avec le COVID, je pense que tout le monde a la même réponse. C'est assez routinier, du pareil au même. Je vais y aller plus pré-COVID. Écoute, on a des bureaux à Québec, à Montréal. Ma routine dans le passé, c'était le lundi matin à 5h, je suis debout. À 5h30, je suis dans mon auto, puis je m'en vais au bureau de Québec faire une visite pendant 2-3 jours. Puis par la suite, je reviens à Montréal pour le bureau de Montréal. Mais d'habitude, c'est on se lève, café, on check nos emails, on répond à nos Slack, puis la journée part en meeting. Il y en a qui aiment ça, être dans des meetings. Moi, ça a des pour et des contre, mais bon, écoute, la journée est finie, on s'entraîne, puis on passe du temps en famille. Je pense que c'est dans une routine, il faut pas non plus trouver un air d'aller qui est confortable. Ça, c'est très important. Je pense qu'une fois qu'on trouve un air d'aller qui est confortable, c'est pas bon. Donc, j'essaye de tout le temps changer ça le plus possible. Donc, on va bouger les choses dans la journée pour qu'on soit un peu moins confortable. Je pense que quand on est dans l'inconfortabilité, on trouve nos positifs et négatifs. Je pense que tout le monde est capable de dire que c'est vrai. Fait que j'essaye de bouger ma confortabilité à chaque jour là, pour que j'apprenne le plus, si on veut.
Intéressant. Tu as mentionné que vous aviez des postes ouverts, donc oui. Si tu voulais peut-être les mentionner à l'audience, des fois, il y aurait peut-être quelqu'un qui pourrait se chercher un emploi.
Écoute, tous les départements recherchent du monde et on va encore plus en chercher dans les prochains mois. Donc, si vous êtes quelqu'un en vente, en ingénierie, en design, en service à clientèle, tous les postes chez Poca, tous les départements recrutent. On est une entreprise qui est dédiée à ses employés. On veut que le monde ait du fun à travailler pour nous. Puis je pense que nos employés sauraient te dire qu'ils sont très heureux chez nous. Donc, n'hésitez pas à postuler, même s'il n'y a pas de poste spécifique d'afficher, n'hésitez pas à nous envoyer votre CV. On est là, puis on est là pour avoir du fun, puis de changer le secteur manufacturier.
Merveilleux. Ben Antoine Bisson, merci beaucoup d'avoir été sur le podcast Hypercroissance. Aujourd'hui, c'était une discussion très fascinante. Tu as été très généreux dans tes réponses également, donc je t'en remercie.
Merci Antoine.
Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. J'espère que le 71e épisode de Hypercroissance aura donné des idées aux entrepreneurs qui nous écoutent en ce qui concerne les efforts à faire pour dominer un marché rapidement. On va suivre de près l'histoire de Poca dans les prochaines années qui risque de peut-être aller faire sonner la cloche de la bourse de Toronto. Également, de lancer nos nouveaux médias sociaux pour Hypercroissance en créant des pages totalement séparées à J7 Media. On vous invite à nous suivre sur LinkedIn, Facebook et Instagram afin de voir de courts extraits vidéo de tous nos podcasts depuis le début. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Hypercroissance.